Appelez-nous, exprimez-vous, 33 1 53 92 64 40, Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Merci à tous de votre fidélité et de l'intérêt que vous portez à l'émission. Vous êtes toujours très nombreux à nous contacter, à souhaiter évidemment vous exprimer sur les grands sujets qui font l'actualité. Des dizaines et des dizaines de courriers électroniques et d'appels ces derniers jours concernant le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre le président soudanais. Nous allons bien évidemment vous donner la parole afin que vous puissiez nous livrer vos réflexions. Je vous rappelle que le président soudanais est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Darfour. Cette décision des juges de la CPI est évidemment historique, mais elle divise, et on le voit bien chaque jour, elle divise la communauté internationale, car seuls les pays occidentaux soutiennent cette initiative. En tout cas, le principal intéressé rejette toutes les accusations. Omar el-Béchir accuse même les occidentaux de néocolonialisme. Nous allons en parler dans quelques minutes avec vos commentaires, vos réflexions. Pour nous contacter, un seul numéro de téléphone, le 33 1 53 92 64 40. Si vous nous appelez de France, vous composez le 01 53 392 64 40. Et si vous disposez d'une connexion internet haut débit avec votre téléphone mobile, vous pouvez également nous envoyer vos commentaires. Notre adresse m.rfi.fr. Notez bien m.rfi.fr. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions concernant l'actualité, des questions à la rédaction pour mieux comprendre tous les sujets que vous entendez sur l'antenne d'RFI. Et évidemment, beaucoup de questions sur la situation au Darfour, sur la décision de la CPI, sur l'avenir judiciaire d'Omar el-Béchir. Alors pour répondre à ces nombreuses questions, on a demandé à Olivier Roger de nous rejoindre. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous suivez depuis plusieurs années ce dossier et plus que jamais évidemment vous avez suivi la décision de la CPI de délivrer ce mandat d'arrêt contre le président Omar el-Béchir. On accueille Boubacar pour la première question. Bonjour Boubacar.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Alors vous êtes en Guinée, à Conakry. Quelles sont vos questions ?
La CPI vient de lancer un mandat d'arrêt international contre le président soudanais. Mmh. Alors je voudrais savoir si cette Cour pénale internationale a la compétence de juger le président en exercice de ses fonctions et dont son pays n'est pas signataire du traité de Rome. Mmh.
C'est vrai que le Soudan ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, mais comme de nombreux autres pays, on peut citer les États-Unis et Israël, comment se fait-il que la CPI puisse poursuivre un chef d'État qui, plus est, n'a pas reconnu officiellement cette Cour, Olivier ?
Alors, je vais vous faire une réponse à deux niveaux. D'abord, sur les principes, le principe du droit international. En vertu de ce qu'on appelle la compétence universelle, et qui est une disposition fondamentale du droit pénal international, eh bien, on peut juger la communauté internationale a décidé que l'on pouvait juger tout le monde et n'importe qui pour des crimes graves commis, comme les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. C'est une disposition qui vise justement à empêcher que ces crimes graves qui concernent l'ensemble de la planète demeurent impunis, sous prétexte que les tribunaux internationaux ne seraient pas compétents, puisque vous savez qu'en matière de juridiction, eh bien, ce sont les juridictions nationales qui priment. En fait, la communauté internationale se dit qu'il n'est pas possible d'échapper à sa responsabilité quand on commet des crimes aussi graves que ceux que je vous ai énumérés et que ce principe de compétence nationale des tribunaux doit être levé. Dès lors, un crime commis par des étrangers dans un pays étranger peut relever de la compétence d'un tribunal belge, par exemple, puisque les Belges avaient adopté cette loi de la compétence universelle et pas seulement des tribunaux nationaux. Ça, c'est la première question, la première réponse, la réponse sur les principes. D'ailleurs, ils sont inclus dans le statut de Rome, qui est le statut fondateur de la Cour pénale internationale. L'article 1 prévoit que la Cour pénale internationale exerce sa compétence à l'égard des individus, des personnes, pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. C'est donc inscrit dans l'article 1 du statut de Rome. L'article 25 prévoit que quiconque commet un crime grave relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni. Et toujours selon l'article 25, une personne est pénalement responsable si elle commet le crime, ordonne, sollicite ou encourage la commission de ce crime. Donc, on le voit, c'est inscrit dans les textes. Alors, le deuxième élément de réponse concerne la compétence de cette Cour. Alors effectivement, normalement, la compétence de la Cour s'exerce contre les ressortissants des États signataires ou si des crimes ont été commis dans un des États partis de Soudan et des États signataires du statut de Rome. Mais cette limite tombe si le Conseil de sécurité des Nations Unies saisit le procureur, et c'est ce qui s'est passé dans le cas du Soudan. Dès l'instant où le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire l'ensemble des pays signataires secrétaire de l'ONU, membre de l'ONU plus exactement, dès l'instant où ces pays demandent au procureur d'agir, eh bien on considère que toutes les limites de compétences tombent et il n'y a plus cette limite. La Cour peut donc agir au nom des Nations Unies, au nom de la communauté internationale. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que bien évidemment, il y a un autre principe qui peut être respecté si les juridictions nationales, par exemple, décidaient de juger Omar el-Béchir, si un tribunal soudanais décidait de le juger pour les crimes qui lui sont reprochés, eh bien la Cour se retire. Le problème, c'est que la Cour peut estimer aussi qu'un État parti ou non parti fait preuve de mauvaise volonté ou que la justice nationale n'a pas la possibilité de le faire, ce qui semble être le cas, selon le procureur, dans le cas d'Omar el-Béchir. Ouais.
Bonne journée, Boubacar. Merci de nous avoir appelé de Conakry. Cam, bonjour.
Bonjour, Monsieur Van. Bonjour à tous les auteurs de RFI et à mon ami Olivier Orlosé aussi.
Très bien, ben merci à vous. Vous êtes à Port-Gentil, au Gabon. Nous vous écoutons.
Oui, bon, ma question est par rapport au mandat d'arrêt international lancé par la CPI.
Oui.
Oui, suite au mandat d'arrêt international lancé par la CPI à l'encontre de l'assassin de M. Omar el-Béchir, chef de l'État soudanais, pour, je cite, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre, premièrement, génocide, deuxièmement, crime de guerre, et troisièmement, crime contre l'humanité?
Oui, d'ailleurs, là, c'est important de le préciser, c'est vrai que la Cour n'a pas reconnu le génocide, comme l'affirmait Luis Moreno Ocampo, le procureur de la CPI, qui en juillet dernier, on se souvient, accusait Omar el-Béchir d'avoir commis un génocide au Darfour. D'abord, la différence. Qu'est-ce qu'on entend par génocide? Qu'est-ce qu'on entend par crime de guerre et crime contre l'humanité?
Alors, une chose, la CPI est une Cour qui ne peut juger que ces crimes-là, c'est-à-dire le crime de génocide, le crime contre l'humanité et le crime de guerre. On ne va pas à la CPI pour un problème de voiture volée, bien évidemment. Alors, le crime de génocide, c'est défini dans le statut de Rome, c'est défini par les textes internationaux, c'est l'intention de détruire entièrement ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Donc, la volonté d'éradiquer tout ou partie un groupe en fonction de ses appartenances différentes, ethniques, raciales, religieuses ou nationales. Le crime contre l'humanité, c'est plus large. Ce sont les actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée lancée contre une population civile. Là, je vous lis les textes. Hein. Ces actes vont du meurtre à l'extermination de cette population civile, la réduction en esclavage, la déportation, l'emprisonnement inhumain, la torture, le viol massif ou le viol individuel, les persécutions, etc. etc. Donc il n'y a pas un ciblage en fonction d'une appartenance religieuse ou ethnique, mais un ciblage généralisé contre une population civile. Le crime de guerre, alors bien, c'est en temps de conflit, ce sont toutes les violations aux conventions de Genève. Les conventions de Genève régissent depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale les règles de protection des personnes civiles et des personnels militaires en temps de conflit. Par exemple, un crime de guerre, c'est tuer systématiquement les prisonniers de guerre, par exemple, ou ne pas porter assistance à des blessés sur le champ de bataille. Voilà donc la différence entre ces trois niveaux de crimes qui sont considérés, donc qui sont les trois crimes que juge la CPI.
Et les juges de la CPI ont retenu sept chefs d'accusation contre Omar el-Béchir dans le cadre justement des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
Alors pourquoi les juges n'ont pas retenu l'accusation que portait le procureur Moreno Ocampo, l'accusation de génocide? Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas encore suffisamment de preuve pour établir que le président soudanais ait voulu volontairement éradiquer les groupes cibles au Darfour, c'est-à-dire les trois ethnies que sont les Fours, les Massalites et les Agawa. Mais les juges précisent aussi que si le procureur peut toujours fournir d'autres preuves et que le cas échéant, cette accusation de génocide pourrait être incluse plus tard dans le dossier.
Et on va repasser au standard, au 33 1 53 92 64 40. Abderrahmane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en Mauritanie, dans le sud-est du pays, à Célibabi.
Oui.
On vous écoute.
Ma question, c'est el-Béchir, c'est l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis la semaine passée. De quels moyens dispose la CPI pour l'arrêter s'il refuse de se livrer?
Bah déjà, il va refuser de se livrer puisqu'il ne reconnaît pas la Cour pénale internationale. Mais c'est vrai que c'est une très bonne question, Abderrahmane, puisque la CPI ne dispose pas effectivement d'une
force
pour pouvoir arrêter, interpeller...
Alors, pour la CPI, c'est effectivement compliqué parce qu'elle peut envoyer personne au Soudan pour exécuter ses décisions. Et puis, elle ne peut pas compter donc sur les autorités soudanaises qui ne veulent pas et qui protègent leur président. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'a pas d'autre moyen que le droit international pour faire arrêter le président soudanais, pour faire exécuter ce mandat. Le mandat d'arrêt ayant été émis par la CPI agissant à la demande des Nations Unies, tous les États membres de l'ONU ont le devoir de faire arrêter Omar el-Béchir s'il se trouve sur leur sol. L'obligation est juridique. Si un État ne le fait pas, si par exemple le président soudanais va en visite à l'étranger, admettons qu'il se rende, je ne sais pas moi, en France.
Il a prévu de se rendre au Qatar, notamment à la fin du mois, donc ça va être un très bon test.
Alors, la CPI peut se plaindre auprès des Nations Unies en disant, voilà, le Qatar ne coopère pas, la France ne coopère pas, et le Conseil de sécurité peut ensuite décider de sanctions. En fait, la CPI n'a d'autres moyens pour faire exécuter ce mandat d'arrêt que de se reposer sur la pression de la communauté internationale et sur la coopération politique des États membres des Nations Unies, mais ces États ont une obligation juridique de procéder à l'arrestation et à l'exécution de ce mandat d'arrêt.
Des États qui pourraient donc être sanctionnés par le Conseil de sécurité de l'ONU.
On n'en est pas encore là.
On n'en est pas encore là, d'autant qu'au sein même du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a les Russes, il y a les Chinois, qui sont de vrais partenaires du Soudan et qui disposent du droit de veto.
Et dans le cas du Qatar, par exemple, si Omar el-Béchir va au Qatar pour poursuivre les négociations avec les rebelles du Darfour, eh bien on peut fort bien imaginer que l'émir du Qatar ne va pas faire arrêter Omar el-Béchir dès l'instant où il va se rendre sur son territoire. Néanmoins, il faut savoir que cette décision de la CPI fait de Omar el-Béchir un paria et que bien peu d'États aujourd'hui vont vouloir accueillir sur son sol un homme qui est considéré comme un fugitif et qui est recherché par la justice internationale.
Même si les pays sont nombreux à contester l'initiative, la décision des juges de la Cour pénale internationale, tous les pays de l'Union africaine.
Une trentaine d'États africains ont ratifié le statut de Rome et reconnaissent la compétence de la CPI.
Effectivement. Elliot est avec nous. Bonjour Elliot.
Bonjour.
Oula, vous êtes à Pointe-Noire, au Congo. On vous écoute.
Oui, alors moi, c'était par rapport au président Béchir. Je voudrais savoir quelles sont les preuves dont dispose la CPI pour accuser Omar el-Béchir d'avoir planifié tous les massacres du Darfour.
Alors, quelles sont les preuves dont disposent aujourd'hui les juges de la CPI pour accuser Omar el-Béchir de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité?
Le procureur Luis Moreno Campo a enquêté pendant plusieurs années, pendant près de 4 ans. Il dit avoir recueilli des déclarations, des éléments de preuve au cours de 105 missions menées dans 18 pays, mais il n'a pas pu se rendre au Darfour pour enquêter. Le procureur dit avoir recueilli des témoignages oculaires, des entretiens avec des agents du gouvernement soudanais, de personnes ayant connaissance de ce qui se passait sur place au Darfour. Il s'appuie aussi et surtout sur le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, qui est le rapport à la suite duquel l'ONU a demandé à la CPI de se saisir de cette affaire. Donc c'est un rapport très important, c'est un rapport fondamental. Il s'appuie aussi sur le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, le rapport de la commission d'enquête soudanaise, puisqu'il y a eu une enquête soudanaise. Et il dit surtout avoir une trentaine de témoins oculaires pour valider la thèse d'une implication personnelle de Omar el-Béchir dans le processus de décision qui a conduit à la commission des crimes qui lui sont aujourd'hui reprochés. Donc le procureur a un dossier énorme.
Oui. Il a été examiné par les juges ces derniers mois.
Voilà.
Et pour les juges, ces preuves sont suffisantes en tout cas pour inculper Omar el-Béchir.
De crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Je voulais ajouter une chose. L'acte d'accusation de Luis Moreno Ocampo est très détaillé et bien évidemment il précise dans cet acte d'accusation qu'il n'accuse pas Omar el-Béchir d'avoir personnellement tué des gens, mais il précise qu'il a réussi à démonter toute la mécanique prouvant qu'Omar el-Béchir était parfaitement au courant de ce qui se passait, parfaitement au courant de la machine qu'il mettait en place à les conduire à la commission de ces crimes et parfaitement au courant de la protection qu'il assurait aux coupables directs, puisqu'il a non seulement intégré les milices Janjaweed dans les forces paramilitaires, il a protégé plusieurs personnes qui sont recherchées par la CPI, qui ont commis ces crimes graves. Donc pour Luis Moreno Ocampo, Omar el-Béchir est à la tête de cette pyramide qui a conduit à ce drame du Darfour. En parfaite conscience, il a pris un certain nombre de décisions qui conduisent aujourd'hui la CPI à l'accuser.
Comment analysez-vous la décision de la Cour pénale internationale? Nous allons en parler ensemble dans une petite dizaine de minutes. Vous nous rejoignez si vous souhaitez évidemment prendre la parole. 01 53 92 64 40. En attendant, d'autres questions. Guy est avec nous. Bonjour. Non, peut-être Bruno d'abord. Bonjour Bruno.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes à Bukavu.
Oui, je suis à Bukavu. En fait, je voudrais savoir la compétence de la Cour pénale internationale par rapport à la Cour internationale de justice et par rapport aux tribunaux pénaux internationaux.
Ah. Olivier Roger, quelle différence peut-on faire entre la CPI, la CIJ, les différents tribunaux pénaux, effectivement, pour le Rwanda, l'ex-Yougoslavie, le Cambodge actuellement, on le voit bien.
Alors la CIJ, c'est très simple. La CIJ, c'est une Cour internationale de justice. C'est la Cour internationale de justice de l'ONU. C'est un organe juridique de l'ONU. Elle juge les États. C'est-à-dire que quand il y a un conflit ou un différend entre États, un frontalier, un différend en termes de conflit, eh bien, ils peuvent se tourner vers la CIJ. Ce sont pour les États. La CPI, c'est pour les personnes. Donc la première différence, elle est là. Alors les tribunaux pénaux internationaux. Avant la création de la CPI, on a eu des tribunaux pénaux internationaux qui étaient temporaires. Donc ils étaient limités dans le temps. Ils avaient aussi une limite de compétence puisqu'il s'agissait de juger ou de connaître d'un crime. On en a vu trois. Il y a eu le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mis en place en 93 par des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a eu le tribunal pénal international pour le Rwanda, créé en 94 par la résolution 955 du Conseil de sécurité. Et il y a eu enfin le tribunal spécial pour la Sierra Leone, créé le 16 janvier 2002. Aujourd'hui, on a vu aussi très récemment la création d'un tribunal spécial pour le Liban, chargé de l'affaire de l'assassinat de Rafik Hariri. Alors, on le voit, ce sont des tribunaux qui ont été créés avant l'entrée en vigueur du statut de Rome qui date de 2002, sauf pour le cas Rafik Hariri. Et puis, la création de la CPI a été décidée justement pour permettre de passer à une étape supérieure, à un stade plus efficace, parce que ces tribunaux, on l'a vu, sont limités dans l'espace, sont limités dans le temps et en termes de compétences. Il faut aussi peut-être ajouter que... qu'est-ce que je voulais ajouter ? Je voulais ajouter un point important.
Moi, ce que je voulais préciser concernant la CPI, c'est que la CPI ne peut juger que les crimes commis depuis sa création, depuis juillet 2002. C'est important parce qu'on a souvent dans les réactions, et on entendra certaines réactions tout à l'heure dans l'émission, de personnes qui disent, mais pourquoi la CPI ne poursuit pas des personnalités pour des faits commis avant 2002, parce que ce n'est pas prévu dans le traité de Rome.
Et on peut préciser aussi une chose importante, c'est que la CPI n'agit que si l'État concerné n'a ni la capacité, ni la volonté de le faire. Et par exemple, certaines affaires jugées aujourd'hui devant la CPI, comme l'affaire Lubanga, ont été à la demande de la République démocratique du Congo, qui estimait ne pas avoir la capacité de recueillir les preuves, de mener les enquêtes pour juger Thomas Lubanga, donc elle s'est tournée vers la CPI. On peut se tourner aujourd'hui vers la CPI pour poser un cas. Il y a trois pays africains qui l'ont fait, la République démocratique du Congo, il y a aussi la République centrafricaine et il y a aussi l'Ouganda.
Bonne journée Bruno, merci d'avoir appelé de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. Il nous reste deux petites minutes. Guy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, on vous écoute.
Oula. Oui, je voulais savoir si le président Béchi ne juge-t-il pas de son immunité présidentielle?
Bonne question, qui est souvent revenue.
C'est une question fondamentale. Alors, d'abord, en vertu du statut de Rome et de droit pénal international, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ne peuvent pas faire l'objet d'impunité et ils sont imprescriptibles dans le temps. Alors là, on se tourne vers l'article 27 du statut de Rome. Il précise que le statut de Rome s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle, et en particulier, on ne peut pas se prévaloir de la qualité officielle de chef d'État, de chef du gouvernement, de ministre, membre d'un parlement, représentant élu, agent de l'État. Ces statuts-là n'exonèrent en aucun cas la responsabilité pénale au regard du statut de Rome, pas plus qu'elle ne constitue en tant que tel un motif de réduction de la peine. Ça, c'est l'article 27 du statut de Rome, qui précise enfin que toutes les règles d'immunité ou les règles de procédure spéciale qui peuvent s'attacher donc à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit d'un État ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. Parce que les crimes que juge la CPI, encore une fois, sont des crimes jugés universels et extrêmement graves et que personne ne peut y
échapper. Donc il n'y a aucune immunité possible devant la CPI.
Il n'y a aucune immunité possible devant la CPI.
Merci beaucoup Olivier Roger d'être venu répondre à ces nombreuses questions. Merci à vous tous. Si vous souhaitez réécouter justement l'émission pour mieux comprendre certaines choses, n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Vous cliquez sur magazine et vous rejoignez évidemment la page de l'émission Appel sur l'actualité. D'autres questions à la rédaction demain matin. D'ici là, vous nous appelez. Le standard reste ouvert. 01 53 92 64 40. À suivre, évidemment, une synthèse de l'actualité. Puis dans 3 minutes, vos nombreuses réactions sur le mandat d'arrêt international lancé contre le président soudanais Omar El-Béchir. A tout de suite. En sol majeur.